ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. ויהי לו מקץ אלפה שנתיים ימים, דודוז ענה, et par où rêve. Et dans son rêve, voilà qu'il se tient au-dessus du Nil. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, il dit « Shtei shanim shlemot ». Pourquoi on nous dit que c'était « Shnataim yamim » C'était deux années complètes. En quoi est-ce que c'est tellement important de savoir que les années étaient des années complètes? Ça peut bien nous faire. Et s'il y avait 10 jours de plus et 10 jours de moins, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de 2 années. En fait, ces 2 années qui viennent s'ajouter à 10 années. De quoi on parle? On parle du temps où Yosef est en prison. Il est en prison parce que Madame Potiphar l'a accusé d'avoir tenté d'abuser d'elle. Et donc, quand elle a raconté ça à son mari, en faisant un scandale que l'esclave que tu nous as amené, il a tenté d'abuser de moi, etc., mais j'ai crié. Et donc, il a pris peur, il est parti, mais j'ai réussi à garder un de ses vêtements. Il a raconté à son mari, voilà ce qu'il m'a fait, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, etc. Alors, il est bien clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Potiphar, il a mis Yosef en prison. Alors, sur cette prison, il faut dire 2 choses. La première chose, c'est que si un esclave tente d'abuser de la maîtresse, de la femme du patron, en général, il ne va pas en prison, on le tue tout de suite. Ouais, un esclave. Et si déjà on le met en prison, on ne va pas le mettre dans la prison des princes. Or, il a mis Yosef dans la prison des princes. C'est comme ça que il a fini par rencontrer les deux princes, le panetier et les chansons, qui étaient des grands personnages. Imaginez, les gens qui sont au service immédiat de Paro, c'est les princes. Alors lui, il était là-bas, Yosef. Et là, la parasha de la semaine dernière, elle avait terminé sur le récit de ce que ces deux clients-là, ils ont rêvé chacun un rêve et l'explication du rêve de l'autre. Et puis, comme ils avaient une sale tête, Yosef, comme tout ce qui s'est passé avec lui en Égypte, tout ce qu'il touchait, il réussissait. Il avait la haute main, c'était lui qui dirigeait la prison. Il dirigeait pas, mais enfin, c'était lui qui dit. Il était lui-même prisonnier, mais c'est lui qui faisait tout le travail. Donc, il leur a demandé, pourquoi vous faites une tête pareille? Dites-moi. Et alors, ils lui ont dit, on a fait des rêves, mais on n'arrive pas à les comprendre. Alors il a dit, ben, racontez-les. Ils ont chacun raconté son rêve, et Yosef a expliqué les rêves, et chacun savait qu'il avait donné la bonne solution du rêve de l'autre. Mais il s'est rendu compte que c'était vrai. Donc le premier qui a fait interpréter son rêve, Yosef lui a interprété positivement, il lui a annoncé que dans quelques jours, ce serait l'anniversaire de Paro, et que Parot allait le réintégrer dans sa fonction, le grand échanson. Alors, le panetier, il a dit, mais moi aussi, j'ai un rêve très semblable. Oui, mais il lui racontait son rêve et Yosef lui a dit, effectivement, dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de Paro, mais Paro, il va te pendre. C'est ce qui s'est passé. Et quand Yosef a interprété le rêve de l'échanson et que ça s'est bien réalisé, il a dit à l'échanson, quand l'échanson était extrait de la prison pour aller, il lui a dit, écoute, je suis un hébreu, j'ai été volé, on m'a volé, j'ai été kidnappé et amené en Égypte, et en Égypte, je n'ai jamais rien fait de mal. Peut-être tu peux dire un bon mot pour moi à Paro, qu'on me sorte de là, quoi. Alors ça se passe, ça fait déjà 10 ans qu'il est en prison. Et à cause de ces deux phrases qu'il a dit de se souvenir de lui, etc., Yosef, il a écopé de 2 années de prison de rab. Et c'est ça qu'on dit. Après 2 ans, c'est 2 ans après que les chansons aient été libérées. Donc c'est en fait après 12 ans de prison. On est maintenant 12 ans à 12 ans de prison de Youssef. Par au rêve. Alors bien sûr, on nous a dit tout de suite, c'est l'essentiel du rêve, c'est que dans son rêve, il est au-dessus du Nil. Et elle y raconte. Mais bon, je ne vais pas vous raconter de nouveau, vous connaissez l'histoire. D'accord, il y a 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Les maigres absorbent les grasses et ne sont néanmoins absolument pas modifiées, elles sont toujours aussi maigres. Et il se réveille. Et un deuxième rêve, la même chose, mais en végétal, c'est les épis de blé. Il y a des gros qui absorbent, les maigrichons absorbent les gros épis, et ils sont toujours aussi maigrichons. Ils se réveillent. Et il demande, il fait venir évidemment tous les interprètes des rêves égyptiens, interprétez-moi mon rêve. Alors, tout le monde y va de ses interprétations, mais aucune interprétation n'a n'entre dans l'oreille de Paro. C'est pas ça. Ça, et Paro, il commence à s'énerver, quoi. Ben, vous êtes incapable, quoi. Vous êtes payé pour interpréter les rêves et vous me donnez pas. Je suis angoissé par ce rêve, c'est parce que ça veut dire. Alors, il y a une règle dans l'interprétation des rêves d'après la Torah, que il n'y a pas des choses qui sont essentiellement impossibles. Donc, si vous voulez, dans ce rêve, on n'a jamais vu une vache bouffer une vache. À part le fait que les vaches ne sont pas carnivores, mais une vache bouffe pas une vache. Et un épi n'avale pas un épi. Alors, si c'est pas un rêve, puisque ça ne satisfait pas les conditions d'un rêve, c'est une prophétie. D'ailleurs, voilà. Donc, Paro sait qu'on est en train de lui, il y a un message là-dedans, et il veut, c'est pour ça que c'est très très important, c'est pas simplement un rêve, quoi. Vous voyez, déjà dans le texte, si vous regardez le texte, le premier passouk, il dit, voilà, on est 2 ans, 2 ans après, par au rêve, et voici, donc quand on dit et voici, ça veut dire, il se passe quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on n'attend pas. Inné, c'est toujours inné, c'est quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'il y a? Il est Omed al-Hayor. Littéralement, il est debout au-dessus du Nil. Et seulement après, Vehine, nouveauté, du Nil montent les sept vaches grasses, etc. Et après, nouveauté. Il y a plein de hiné, 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 hiné. Chaque fois, c'est un nouveau truc. Il y a, comme s'il y avait une continuité, un truc. Mais chaque fois, Et puis ensuite, il se réveille. Il se rendort et il rêve à nouveau, rêve une deuxième fois. Et de nouveau, Vehine, cet épi qui pousse sur la même tige. Gros, des épis très, très beaux, très pleins. Vehine, cet épi maigrichon. Et les maigrichons avalent les gros. Ils se réveillent. Il y a une petite différence entre les deux rêves, c'est que dans le rêve des vaches, on dit clairement que les vaches, après avoir absorbé les maigres, après avoir absorbé les grosses, elles sont toujours aussi minces, aussi maigrichonnes. Dans les épis de blé, on dit pas ça. Mais bon, ici, ça se voit pas directement. Bon, ce que je vous ai dit, c'est pas directement dit ici. Donc, on efface ça. Ouais. Donc, comme il est angoissé, et il le raconte. Et personne ne lui interprète le rêve. Comme je vous ai dit, il se met en colère. Et donc tout le monde a peur, évidemment.
Le vent qui vient en plus sur les églises, il y a un vent ou le vent.
Il y a un vent.
Un vent d'est qui souffle.
En achetant le vinet, je sais pas si vous voulez la côte du Podcadim. Comme côte. Ah, battu par les... Non, je crois pas. Pas le vent qui souffle d'après Rachid, c'est... Le vent a soufflé en quelque sorte. Ils sont maigrichons parce qu'on a l'impression que c'était déjà tout petit et en plus le vent avait déjà enlevé une grande partie des graines. Alors le Sar HaMashkim, les chansons, qui évidemment avaient oublié, j'ai entendu, avaient voulu oublier l'engagement qu'il avait pris par rapport à Yosef de dire un mot en sa faveur à Paro. Là, tout à coup, il s'est dit, mais si jamais Paro, il apprend qu'il y avait avec nous dans la prison un type qui a bien expliqué les rêves et que je n'ai rien dit, là, je suis fichu. Donc, malgré qu'il portait pas Yosef dans son cœur et qu'il voulait pas lui rendre de service, il s'est dit, il faut que je parle quand même. Mais donc, il raconte. Et bien entendu, voilà, il raconte. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, avec nous, voilà, tu t'es mis un jour en colère contre le pantier et moi, et tu nous as mis dans la prison, et on a rêvé Chacun a rêvé son rêve. Et avec nous, il y avait là-bas, dans la prison, il y avait Nahar, Ivri, Eved, le Saratabachim. Regardez Rashi. Rashi sur le verset 12, Yudvet. Rashi dit, Nahar, Ivri, Eved. Rashi dit, Arurim, Harishayim, maudit soit les méchants, She'en Tovatam Shlema. Parce que quand ils font du bien, c'est jamais parfait. Maskiro Belashon Bizayon. Alors, il est en train de, à son corps défendant, mais il est en train de faire du bien a priori à Yosef, il est en train de faire ce que Yosef lui a demandé de faire. Mais quand même, malgré que. Il le dit de façon méprisante en parlant de Yosef. Qu'est-ce qu'il dit? Nahar, choté, un idiot. Raou, c'est quelqu'un qui ne mérite pas du tout d'être élevé à un quelconque poste important. Quand même pas qu'il devienne lui, surtout pas qu'il devienne aussi important que nous, quand même. Ivri, afilou le chonenu, et nomakir, il ne connaît même pas notre langue. Eved, et on sait, c'est marqué dans les lois de la bienséance égyptienne, En Eved Meler, un esclave ne peut pas devenir roi et n'a pas le droit de mettre des vêtements princiers. Vous voyez, donc il a dit tout ce qu'il pouvait dire de mal de Youssef. Il a profité de le dire. Alors, ce qui est intéressant dans ce Rashi, c'est que Rashi dit « Maudits soient les méchants », mais il dit pas « Maudits soient les méchants parce qu'ils disent du mal ». Il dit une drôle de chose, il dit « Parce que quand ils font du bien, c'est jamais complet ». Mais bon, ben, tant qu'à, d'accord, c'est pas complet, mais c'est du bien quand même. Pourquoi ça mérite une malédiction? Il fait du bien, il ne le fait pas parfaitement bien, ça mérite une malédiction. Qu'on maudisse les rechaïms parce qu'ils sont des rechaïms, c'est un truc. Mais pourquoi? Parce que c'est pas complet. Ça veut dire qu'on a l'impression ici que la chose la plus grave, c'est que quand tu es en train de faire du bien, tu ne le fais pas bien. Le bien, ça doit être fait, ça doit être bien fait. Donc c'est un problème, si vous voulez. Ça veut dire, quand tu fais une mitzvah, ne pas la faire bien, c'est, semble-t-il, pratiquement plus grave que ne pas la faire du tout, quoi. Donc c'est assez dur pour nous, quoi. Alors, il faut faire les choses. Si tu les fais, alors fais-les bien. C'est quelque chose de bien, c'est une bracha. Alors donne la bracha complètement, ne donne pas, et tu retiens quand même, empêcher que le bien soit, qu'il soit complet. Donc, ça semble-t-il, dans, c'est Rashi. Rashi considère que c'est plus grave que, c'est beaucoup plus grave que de ne rien dire. Il aurait pu dire qu'ils sont maudits parce qu'il dit du mal de Yosef. Non. Le problème, c'est la gravité, elle est que tu es en train de, à ton corps défendant, mais tu es en train de faire quelque chose de bien, tu es en train de mentionner Yosef devant Paro, qui c'est peut-être qu'il va pouvoir sortir de tôle. Non, mais il faut aussi, faut pas que. Alors voilà, c'est ce qu'il lui dit. Et il lui dit, donc, ce type-là, il a expliqué le rêve et les choses donc, se sont déroulées comme il les avait expliquées. Alors, bon, ça n'a pas fait un pli, hein. Vaishlach Paro, immédiatement. Paro a envoyé chercher Yosef. Il a appelé Yosef. On l'a sorti du trou où il était. On l'a rasé, on a changé ses vêtements, et bon, et on l'a mis dans une limousine pour l'amener au palais. Il y avait El Paro, et on l'a amené à Paro. El Paro dit à Yosef, il lui a pas demandé de ses nouvelles, ni rien du tout, hein. Il vient direct tout. Chalom chalamti, je rêvais. En hébreu, c'est redondant. Il dit, tu rêvais un rêve. Poter enoto, personne ne l'explique. J'ai entendu, à ton sujet, j'ai entendu dire, Tishma chalom lifdor oto. Que littéralement, tu entends ou tu écoutes un rêve pour l'interpréter. Rashi, Tishma chalom lifdor Ta'azin, tu écoutes. Vetavin, et tu comprends. Chalom, le rêve. Liftor, auto. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, tu écoutes. Et puis ensuite, il dit, Vetavin. Et tu comprends. Le mot tavine, il est construit, c'est le même mot que la bina. Alors, vous savez qu'il y a la chorma, la sagesse, et il y a la bina. La chorma, c'est la sagesse, ça veut dire, c'est les éléments, c'est les axiomes du système qu'on te donne. C'est des éléments que tu ne peux pas trouver par toi-même. C'est des éléments de base. C'est ton maître qui doit te les donner. Et après, avec ces éléments, on applique la bina. La bina, ça veut dire, c'est mevin davar mitor davar. C'est-à-dire, tu es capable de comprendre un nouveau problème grâce aux éléments qu'on t'a donnés. C'est-à-dire, tu es capable de construire à partir des éléments qu'on t'a donnés, tu vas construire une théorie, et cette théorie va te permettre d'expliquer un nouveau phénomène. Lui, il ne t'a pas été donné, t'a pas été expliqué. Si vous voulez, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est vraiment cette idée d'une construction, puisque Bina et Binyan, c'est la même chose. Bina, c'est donc cette façon de comprendre quelque chose à partir d'autre chose, et c'est la même racine que le Binyan, qui est la construction. C'est vraiment une construction, comme quelqu'un qui construit une théorie avec des éléments. Construit une théorie, et cette théorie, si c'est une bonne théorie, elle doit expliquer autre chose que les éléments qu'on lui a donnés. Et c'est ça que, par exemple, je crois que c'est le Gaon qui explique qu'est-ce que c'est un chidouche. Un chidouche, c'est quand tu construis quelque chose à partir de ce que tu as compris, et que cette chose-là que tu as construite, ben, elle explique d'autres choses. Ça, c'est vraiment une avancée, si on veut. Parce que si la construction que tu as faite, elle explique que les éléments que tu avais, bon, elle est complètement ad hoc, bon, elle ne sert à rien. Une théorie, mais si elle explique rien d'autre, elle ne sert pas à grand-chose.
Le même principe d'expliquer les phénomènes
Alors, oui.
actuels avec les
Par
éléments qu'on
exemple,
aura.
si on arrive à faire une. Il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment. On explique beaucoup la guerre en ce moment comme étant quelque chose qui se comprend dans l'opposition entre Israël et Ishmaël. D'accord? Ishmaël qui est aussi un fils d'Abraham, qui donc a reçu aussi une bénédiction d'Abraham, une chose qu'Abraham a demandé à Hachem, etc. Et donc, les problèmes que nous avons avec Ishmaël sont des gros problèmes parce qu'il a reçu lui aussi une bracha en tant que. Il y a une concurrence. Ishmaël, il est un descendant d'Abraham. Et ce que disent les musulmans, c'est que tout ce qui est écrit dans la Torah, ben, pour eux, c'est Abraham, ce qu'il a sacrifié, c'est Ishmaël, c'est pas Yitzhak. Et ils disent que nous, on a falsifié la Torah. Et que le texte véritable, c'est le Coran. Et que les chrétiens aussi, c'est les falsificateurs. Seulement, on a comme on a à voir avec le livre, alors on a un statut pas complètement comme les païens directement. On est des dhimmi, alors ça veut dire que si on accepte de payer les impôts et qu'on accepte de se soumettre aux musulmans, alors on nous tue pas, quoi. C'est sûr que dit. Et bon, alors d'un côté, on a Esav, c'est l'Occident, quoi. Et on a Ismaël, et que le problème, c'est le problème d'un galout qui n'est pas explicitement dit, mais bon, on ne va pas parler de ça maintenant. On en parlera peut-être à un autre moment. En tout cas, c'est ça l'idée de la Bina. Et il lui dit, toi, tu écoutes, tu sais écouter, ça veut dire, et tu vas construire quelque chose qui va expliquer mon rêve. Alors, Yosef, il répond de façon très intéressante parce que, bon, vous imaginez, il est devant Paro, et Paro lui dit, j'ai entendu que tu expliques, etc. Bon, la tentation, elle serait de dire, oui, bien sûr, oui, je vais essayer, je vais essayer. Yosef, il dit pas ça du tout, hein. Il dit Biladai, c'est pas moi, hein. Moi pas du tout. Moi je vais rien expliquer moi-même. Biladai. Elohim Yaaneh Shlom Paro. C'est Elohim qui va répondre de telle sorte que Paro retrouve son shalom, retrouve sa sérénité. Mais il n'y a pas du tout profiter pour se mettre un peu en valeur. Moi, je suis seulement le canal à travers lequel Elohim va te parler. Alors, il lui raconte. Il lui a la même chose. D'abord, Paro El Youssef, Bachalomi, dans mon rêve, Ineni Omed al Sfatayor. Je me tenais au bord du fleuve. Vous avez remarqué qu'il a changé. Quoi? Pardon?
Il était au-dessus.
Oui, on voit il leur a pas raconté qu'il était au-dessus du fleuve. À personne, il a raconté qu'il était au-dessus du fleuve. Parce que c'est ça l'essentiel du rêve. Le rêve de Paro, il vient de ce qu'il a un souci. Le Nil, en Égypte. Il est nourricier. Avant le barrage d'Assouan, le Nil assurait la nourriture des Égyptiens. Il y avait les inondations du Nil. Ça laissait un truc complètement fertile. Et donc, il n'y avait qu'à se bêter pour ramasser, quoi. Alors, bon, le Nil est devenu, bien entendu, une divinité nourricière. Paro est aussi une divinité. En Égypte, le pharaon, c'était une divinité. Une espèce de roi soleil, un roi soleil. Seulement, son problème, c'est qu'il y a une hiérarchie des dieux, pardon. Et son problème à Paro, c'est où est-ce que je suis, moi, dans la hiérarchie? Est-ce que je ne suis qu'un bon gestionnaire de la richesse fournie par le Nil, ou est-ce que je suis une divinité pour soi au-dessus du Nil? Alors, bien entendu, il peut pas leur raconter ça parce que les Égyptiens, ils comprennent tout à demi-mot, comprennent que, quoi, tu veux te mettre au-dessus du Nil? Ils vont pas apprécier ça, c'est lèse-majesté par rapport à la divinité Nil. Quel pas, etc. C'est pour ça qu'il dit, j'étais au bord du Nil. Mais évidemment que, comme l'essentiel du rêve, c'était son problème de vouloir être au-dessus du Nil, et qu'il ne leur donne pas cet élément-là, les interprètes n'avaient aucune chance de pouvoir interpréter son rêve comme il fallait. Et Yosef, s'il avait été seulement un interprète de rêve, il n'aurait pas non plus, lui non plus, il n'a pas les éléments. Et comme c'est Hachem qui l'inspire, Hachem, il sait ce que Paro a vraiment rêvé et ce qu'il veut vraiment. Et donc, Yosef va donner une interprétation au nom d'Elohim, il va donner une interprétation qui va permettre à Paro d'être au-dessus du Nil. C'est une des raisons pour lesquelles Paro va être très, 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 très heureux de l'interprétation de Yosef. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ça c'est au verset 25. Voyons vers Yosef el Paro. Yosef dit à Paro, Chalom Paro Echad. Tu as fait deux rêves, mais c'est un seul rêve. Mais pourquoi est-ce que Est Asher o Elohim osé et guide le Paro? Ce qu'Elohim va faire, il est en train de te il l'a raconté à Paro. Il te l'a raconté, donc. Ça veut dire c'est une prophétie. Alors, il m'explique. Les sept vaches grasses, c'est sept années d'abondance. Les maigres, c'est sept années de famine. Et les années de famine vont être tellement terribles que ça va effacer le souvenir complètement effacer le souvenir des années d'abondance. Et le fait que le rêve est répété deux fois, c'est parce que Elohim est en train de te dire que ça va arriver tout de suite, donc il faut que tu prennes des mesures d'urgence. Donc il explique tout. Dans le 32, il lui dit que pourquoi c'est répété, quoi. Et normalement, il devrait s'arrêter après le verset 32. Bon, voilà. Pourquoi est-ce qu'il a répété le rêve? Parce que la chose est, Elohim va le faire, ou même Maher, Elohim l'a surtout. Elohim se dépêche de faire ce qu'il t'annonce là. Ça va avoir lieu tout de suite, c'est l'urgence. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Paro, il a invité Yosef à interpréter les rêves. Bon, c'est fini, il a interprété. Non, non, tu retournes dans ton trou, ou bien éventuellement, on te. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il continue de parler. Et quoi? Il va donner des conseils. Vous imaginez, un type, on lui a demandé d'interpréter un rêve et maintenant lui donne des conseils à Paro. Normalement, tu meurs tout de suite. Je veux dire, tu donnes des conseils au roi, à l'empereur, à une divinité. Donne-toi un étranger, esclave, avec tout ce que l'autre a tartiné sur lui. Il faut être fou pour parler comme ça. Mais c'est maintenant, maintenant c'est la Bina. J'ai donné les éléments. Il va y avoir une famine, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? OK. Le problème, c'est comment tu vas faire face. Tu sais qu'il va y avoir des années d'abondance, des années de famine, et les années de famine, elles vont être terribles. Donc, il va falloir s'organiser. Et donc, ce qu'il lui dit, il lui dit, Ve'ata. Et maintenant, Irai Paro, Ish Navon Vechacham, que Paro voit, c'est-à-dire qu'il choisisse, un homme, Navon Vechacham, sage, Vishite ou Aleretz Mitzrayim. Et il faut mettre ce bonhomme à la tête de l'Égypte. Donc Paro doit faire les choses de cette manière-là. Il doit donner des ordres. Il faut partager la terre. Et puis, il va falloir prendre des impôts pendant les 7 années d'abondance. Et on va ramasser des réserves de blé. On va les mettre dans des silos, dans les villes, et ça va être mis sous clé. Et tout ça sera Tahat Yad Paro. Et tout sera sous la main de Paro. Ça veut dire, tout va dépendre, tout sera sous sa direction, toute la richesse de l'Égypte sera dans les mains de Paro. Et donc, cette nourriture-là, elle va servir à tenir durant les années de famine. Comme ça, l'Égypte ne mourra pas pendant ces années de famine. Alors, Vayita Vadavar Beine Paro, la chose a beaucoup plu à Paro, c'est-à-dire y compris l'explication, et aussi à ses serviteurs, toute la cour là. Et Paro a dit à ses serviteurs, il leur a dit, est-ce qu'on peut trouver un autre homme qui est inspiré par Elohim, qui a l'esprit d'Elohim? On ne voit pas. Donc ça veut dire, premièrement, Paro, il reconnaît ici que le mot Elohim, il se lit aussi en profane. On utilise ce même mot pour parler des idoles, puisqu'on appelle, on dit Elohim Aferim. Elohim, c'est un dieu. Alors ce dieu-là, le dieu de Yosef, qui a inspiré Yosef, comme Yosef l'avait dit, bon, c'est un type qui a cette inspiration divine, quoi. On ne trouvera jamais un type comme ça. Et donc Paro lui dit, il dit à Yosef, après que Elohim t'ait dit tout ça, bon, il n'y a personne qui sera aussi sage que toi. C'est toi qui seras sur ma maison. C'est toi qui deviendras l'intendant de l'Égypte, quoi. Et tout mon peuple ne se lèvera pas le petit doigt sans passer par toi. Rat à qui sait, Egdal Mimen. Il n'y aura que le trône au-dessus de toi. Tu as tous les pouvoirs, sauf que moi je suis le. C'est moi qui suis sur le trône, et pas toi. En vérité, quand Yosef lui a donné son conseil, ce qui était clair dans le conseil de Yosef, c'est il faut mettre quelqu'un à la tête de l'Égypte. Mais s'il avait mis n'importe quel Égyptien à la tête de l'Égypte, il lui aurait pris le pouvoir. Un type qui a toute l'économie égyptienne dans la main, parce que c'est lui qui a il a toutes les clés, quoi. Personne ne bouge sans lui. Paro, il ne va pas faire long feu. Il va pas rester empereur d'Égypte longtemps. Hein. Le prochain Paro, on sait qui c'est. Ce sera lui. Mais Yosef lui dit, à la limite, moi, je suis pas un danger pour toi. Je suis un étranger. Je suis un Éved. Je ne peux pas te prendre ton pouvoir. Donc, la solution, c'est que tu me donnes moi. À part ça, évidemment, c'est moi qui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Abraham Kanivski, il fait remarquer que dans la Torah, quand on parle de Chacham et Navon, vous entendez, Chacham c'est la Chokhma, et dans Navon, Bet Nun c'est la Bina. Alors, c'est toujours dans l'ordre Chacham et Navon. D'abord la Chokhma, et après la Bina. C'est normal, parce qu'il faut d'abord donner les éléments, donner les actions, mais puis ensuite tu feras des théorèmes. Mais si on ne peut pas faire les théorèmes si on n'a pas les actions. Ici, Navon, il est dit avant Chacham. Navon veut Chacham. Pourquoi? Parce que la Chorma, je te l'ai donnée. La Chorma, on l'a reçue là. Maintenant, le problème, c'est de Binyan. C'est d'en faire quelque chose pour sauver l'Égypte. C'est ça qui est important. Mais le deuxième mot, pourquoi il faut que ce soit Chacham après? Ishnavon, c'est tout. Pourquoi Chacham après? Parce que ce type, il va évidemment rester au pouvoir. Et quand il va rester au pouvoir, il aura besoin de la Chorma, du coup. Il aura besoin de. Enfin, il faudra qu'il ait de la sagesse. D'accord? Jusqu'à présent, il va bénéficier de la sagesse qui lui a été donnée par Hachem, visiblement, et que je viens de t'exposer. Il faut juste construire les structures, organiser la mise en coupe réglée de l'Égypte, ramasser tout ça dans les mains de Paro, etc. Et après, évidemment, quand le type, ce problème-là sera réglé, si tu as réglé le problème du Covid, maintenant il faut régler le problème de la guerre. C'est un nouveau problème, c'est une autre Hokhma. Mais à partir du moment où on sait que c'était le Covid, alors il fallait organiser comment on fait pour résister au Covid. Maintenant, si tu as fait ça, ok, alors maintenant tu vas rester et tu vas devenir, il faut maintenant gouverner la guerre, il faut gérer la guerre. Et donc, c'est ce qui va se passer. Paro va être nommé vice-roi d'Égypte. Paro s'occupe de tout. Bien sûr, oui. Il va mettre des vêtements, contrairement à ce que les chansons avaient dit, il ne peut pas porter des vêtements royaux, il va mettre des vrais vêtements royaux, etc. Il va avoir le deuxième chariot, la deuxième limousine, Égypte One, c'est Pharaon, et Égypte Two, c'est Yosef qui l'aura. Il va le marier aussi. Il va lui trouver une femme. Donc ça, c'est au... au verset 45. D'abord, Paro lui a donné un autre nom. Il l'a appelé Sofnat Panéa. C'est un nom égyptien. Pourquoi c'est important qu'il ait un autre nom? Très important parce que si on l'avait appelé Yosef, quand les frères vont venir en Égypte et qu'on va leur dire, ils vont entendre que le type en face d'eux s'appelle Yosef, ils vont peut-être, même si c'est peu vraisemblable, que celui qu'ils ont envoyé comme esclave devienne vice-roi d'Égypte, mais enfin, ils vont se poser une question, pourquoi tout à coup il s'appelle Yosef? Tandis que s'il s'appelle Tsofnath Paner et que quand ils sont devant lui, il est déguisé comme un vice-roi égyptien, comme on connaît, ils n'ont aucune chance de le rencontrer, de le reconnaître. Vaïten lo et osnat bat Potiphéra Cohen on Leïcha. Et il lui a donné Osnat, la fille de Potiphéra, le Cohen de On, comme épouse. C'est qui cette fille-là? Osnat, la fille de Potiphéra. La fille des Potiphar. Monsieur et madame Potiphar ont une fille, elle s'appelle Osnat. Ce type était suffisamment important pour que on donne sa fille en mariage à quelqu'un qui va être le deuxième personnage de l'Égypte. Alors, Chazal disent que, premièrement, quand on a raconté que Yosef il a été vendu, ça c'est au chapitre Lamedzayin, au chapitre 37, au dernier verset, 37-36, on nous dit que les Midianim qui avaient transporté Yosef en Égypte, Machu oto, El Mitzrayim, Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Ils l'ont vendu à Potiphar, Sris Paro, Sarah Tabakhin. Ils l'ont vendu à Potiphar, qui était Sris Paro. Saris, c'est un eunuque. Parce que comme toujours dans ces pays, les gens importants, c'était les eunuques. Parce que je sais pas si c'est parce que il y avait des chances qu'ils aient un accès trop facile, je sais pas, au harem ou un truc comme ça. Je sais pas quelle était la raison, mais en tout cas, ces gens-là, ils étaient élevés éventuellement comme ça, immédiatement. Ils étaient stérilisés et tout. Et donc, il est Saris. Donc, il peut pas avoir d'enfant. Donc, quand on dit qu'il y a une fille de Potiphar et de sa femme, en fait, c'est seulement une fille adoptive. Et cette fille adoptive, le Midrash dit que c'est la fille de Dina. Quand Dina a été violée par Shimon, quand Dina a été violée par Hamor, Shrem, un Shrem, en fait, elle est tombée enceinte. Elle a une fille. Cette fille, c'est Osnat. Et Yaakov Avinu ne voulait pas qu'elle reste dans les parages, je ne sais pas pourquoi. Alors il lui a écrit une amulette pour la protéger et il s'est débrouillé pour qu'elle arrive en Égypte. Là non plus, c'est probablement un peu. C'était pour que Yosef ait une femme qui soit de chez nous, quoi. Il est en train d'épouser sa nièce avec ça. C'est la fille de Dina, c'est sa nièce. Et donc, elle a été adoptée par les Potiphar, mais c'est sa nièce, en fait. Voilà, Yosef est donc roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Il est marié, il va avoir deux enfants avec cette femme, avec cette Osnat. Et voilà, il met en place, pardon, la politique, justement. Alors, il y a quelque chose qui est toujours très intéressant à remarquer, c'est que, a priori, Paro, il a ce qu'il appelle des serviteurs, mais il a une cour, il y a des gens, il y a des ducs, il y a des comtes, il y a des. Vous voulez, quoi. Et ces gens-là, ils ont bien sûr, c'est des gens riches qui ont des propriétés, qui ont eux-mêmes, je pense, des esclaves, etc., qui sont des richards, quoi, ils ont des propriétés, des champs, etc. Tous ces gens-là, ils vont cultiver. Mais Yosef, il va dire, vous donnez des impôts et on va mettre tout ça en réserve pour la période des. Alors ils ont essayé de se faire eux-mêmes des silos pour garder leur récolte à eux. Chacun voulait garder sa récolte. Ça a pourri. Ça n'a pas marché. Par contre, ce que Yosef, il savait probablement comment le conserver. Et tout ça, c'est devenu les richesses de Paro. Donc, il y a une centralisation. Tout est dans la main de Paro. C'est dans la main de Yosef en attendant, mais officiellement, c'est dans la main de Paro. Donc, on peut se demander pourquoi Yosef fait tout ce job-là pour mettre tout ça dans la main de Paro. Pourquoi il laisse pas Pourquoi il n'a pas donné les recettes, en quelque sorte, pour que chacun installe des silos sur ses propriétés? Alors, je pensais que Yosef, ici, il faut comprendre que toute cette histoire de Yosef, C'est la mise en place de la naissance du clan Israël. C'est quoi la naissance du clan Israël? C'est la sortie d'Égypte. Clan Israël, il naît à la sortie d'Égypte. Et pour sortir d'Égypte, il faut y entrer d'abord. Eh bien, et donc, que j'ai souvent déjà expliqué, c'est qu'il faut bien entendre que le fait que ce qui va se passer, c'est que la famine, elle va frapper en Eretz Israël aussi, et que Jacob, il va devoir acheter à manger en Égypte. Et de fil en aiguille, il va descendre en Égypte. Il voulait pas, mais il va se retrouver en Égypte. Et c'est le commencement de l'exil égyptien. Ça va mal tourner ensuite pour l'Ibn Israël et tout, avec les souffrances et toutes ces années. Mais il va falloir sortir d'Égypte. Ça veut dire que la descente, c'est pas, il est arrivé un accident qu'il faut corriger en les faisant sortir d'Égypte. Ils ne sont descendus que pour pouvoir sortir, en fait. Ce qui était important, c'est la sortie. C'est-à-dire, c'est, si vous voulez, les ténèbres avant le lever du jour. C'est la conception avant la naissance. Tout ça c'est ça l'Égypte. La mère du peuple d'Israël, c'est l'Égypte. Nous sommes nés en Égypte. J'ai conçu et né en Égypte. Mais pour la sortie d'Égypte, pour que Hachem se manifeste, etc., il fallait faire de Paro un interlocuteur valable. S'il avait fallu pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, ils avaient été rendus en esclavage, il y en aurait 10 là-bas, 300 ici, 5 000 ici, etc. Ouais, mon cher Avinu, il serait allé discuter avec chacun. Tout a été regroupé et c'est Paro l'interlocuteur de mon cher Avinu, c'est-à-dire l'interlocuteur d'Hachem. Et c'est contre Paro, en tant que représentant de l'Égypte, qu'Hachem va se manifester d'abord. Après, ça va toucher toute l'Égypte. Mais il fallait installer Paro et c'est ce que fait Yosef. Il installe Paro comme un interlocuteur valable pour la négociation entre Hachem et Paro, pour la sortie d'Égypte. Bon, alors pour l'instant, il est seulement roi d'Égypte. Et puis, bon, je vous ai dit, arrive un moment où Yaakov dit à ses fils, voilà, il faut aller chercher, il faut aller acheter à manger. Alors, les 10 fils de Jacob, c'est-à-dire tous sauf Binyamin, qui est petit encore, il est dernier-né, Jacob ne veut pas le laisser partir, parce qu'il va expliquer que Binyamin, c'est l'enfant de Rachel. Et comme il dit, ben, l'autre fils de Rachel, c'est Yosef, il a disparu. Ben, tout ce qui me reste, Rachel, elle est morte. Et tout ce que j'ai de Rachel, c'est lui. Et Rachel, elle est morte en chemin. Et Yosef, il a disparu, il est mort en chemin aussi. Je le mets pas sur les chemins. Peut-être qu'ils ont un truc comme ça dans la famille, une faiblesse. Il va pas. Donc ils sont 10. Ça fait un moment que, quand ils ont raconté, on a vu la semaine dernière, donc ils ont raconté à leur père que Joseph avait, enfin, ils ont fait croire à leur père que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. Ils n'ont évidemment pas dit qu'il était esclave en Égypte. Mais ils voient très bien que leur père, il s'en remet pas. Jacob, il n'arrive pas à se consoler. Il ne veut pas se consoler, son fils, il n'est pas mort, donc il ne veut pas se consoler de la mort de son fils. Et c'est très, très grave parce que quand il, parce qu'il n'arrive pas à se consoler, il est triste. Et parce qu'il est triste, il n'y a pas de, il n'a pas de prophétie ni de, parce que la prophétie, elle n'existe que si on est en joie. On a besoin de Simcha. Sans Simcha, il n'y a pas de prophétie. Les Bnei Israël, ils doivent être Besimcha, on doit être Besimcha pour servir Hachem. On ne peut pas servir Hachem dans la dépression, dans la tristesse. Or, leur père est triste. Donc, ils comprennent, ils ont une mauvaise conscience. Maintenant, ils vont en Égypte. Alors, ils se sont dit, on va peut-être le chercher. On va chercher, s'il est esclave en Égypte, on va le trouver. Et pour ce faire, ils sont entrés en Égypte, chacun par une autre porte. Yosef, il savait que ses frères allaient venir, puisque tout le monde entier venait acheter à manger chez. Donc, il a des guetteurs un peu partout. Et le Midrash dit que quand tu voulais acheter, il fallait remplir des papiers, il fallait dire ton nom, le nom de ton père, le nom de ton grand-père, d'où tu venais, qui tu étais, etc., etc. Qu'est-ce que tu voulais, combien tu voulais acheter, et tout. Et puis bon, il y avait des caméras partout. Yosef, il a été averti que ses frères étaient en train d'arriver. Bon, ils sont arrivés, il fallait aller, non, il fallait une audience, ils venaient chercher une grande quantité de blé. Il fallait une audience auprès du roi, pas du vice-roi. Et donc, ils sont arrivés devant lui, et lui, il les a reconnus, eux, ils ne l'ont pas reconnu. Entre autres, parce qu'il l'avait quitté, il avait 17 ans, maintenant il a 30 ans. Et alors, la Torah, elle dit que quand il les a vus, ils sont arrivés, ils ont dû évidemment se prosterner devant lui. Quand il a vu ses frères se prosterner devant lui, ça fait tilt, là. C'est un rêve, là. J'ai fait une fois un rêve où il devait se prosterner devant moi. Et il y a un deuxième rêve où il n'y a pas seulement eux, mais mon frère Binyamin aussi, et mon père aussi. Et donc, du coup, il va s'attacher à assurer la réalisation de son rêve, de ses rêves. Alors il leur parle durement et il les accuse d'être, vous êtes des explorateurs, vous êtes des espions. La preuve, vous êtes entrés par tous les côtés de l'Égypte, vous êtes venus voir quelle était la faible, quel était le côté le plus faible de l'Égypte, comment on pouvait envahir l'Égypte, par quelle porte, etc. Rien, pas du tout. Et puis ils ont commencé à bavarder, ils ont commencé à dire, mais non, on est tous les enfants d'un même père, etc. Donc il les a fait parler, ils ont raconté toute leur. Enfin, ils ont seulement dit, voilà, le plus jeune, il est auprès de notre père et on a un frère qui n'est plus là. Et donc, il a dit, non, mais vous êtes des espions. Et il les a mis aux arrêts pendant 3 jours. Ils les ont arrêtés comme espions. Et puis, après, il les a fait venir, il a dit non, bon, moi je respecte votre Elohim, quoi. Vous allez retourner chez votre père. Au début, il avait dit, il y a un d'entre vous qui va aller chercher le petit et vous allez le ramener. Et après, il a dit non. Vous allez tous rentrer, vous allez apporter à manger à votre père, mais je vais en garder un d'entre vous. Garantie, quoi. Maintenant, pour revenir, pour avoir à manger, ou bien vous ramenez avec votre frère, alors je sais que vous n'êtes pas des espions, si vous revenez pas avec votre frère, vous ne verrez jamais. Vous ne verrez plus, ça ne sert à rien de venir. Vous ne verrez pas, donc vous n'aurez pas à manger. Et éventuellement, on vous arrêtera parce que vous êtes des espions. Alors, évidemment, qui est-ce qu'il a gardé comme otage? C'est Shimon. Parce que il sait très bien qu'il y a une paire dangereuse qui s'appelle Shimon et Lévi. C'est les deux qui ont massacré Shrem, d'accord, qui ont tué tout le monde à Shrem parce que leur fille, leur sœur Dina avait été violée. Donc, c'est des gens extrêmement dangereux, quoi. Ces deux-là, ils peuvent mettre l'Égypte à feu et à sang. Donc, il y en a enlevé un, s'ils font la paix, par la paix. Et le Midrash dit que Shimon, il était en train de partir avec ses frères, et il y a un des assistants de Yosef qui l'a tapé par les... Il a dit, non, que tu restes. Et Shimon, il a dit à ses frères, cette main-là qui m'a arrêté, c'est une main de chez nous. C'était des costauds, etc. Il a reconnu, c'est un de ses neveux, c'était un fils. Les assistants de Yosef, c'était ses fils. Évidemment, eux, ils ne les connaissaient pas. Un des deux était le traducteur, parce que Yosef, il a mis un traducteur, parce qu'officiellement, ils comprenaient par leur langue. Ça lui permettait d'entendre ce qu'il disait, puisque comme il y avait un traducteur, ils pensaient qu'il ne connaît pas l'hébreu, disons, la langue qu'il parlait. Donc, ils parlaient entre eux, et lui, il entendait. Eux, ils ne savaient pas que lui, il entendait tout ce qu'ils disaient entre eux. Et donc, il a gardé Shimon. Ils sont rentrés, ils ont raconté. Alors, ce qui s'est encore passé, c'est que Yosef, il avait donné l'ordre de remplir les sacs de blé de ces gens et de leur remettre tout leur argent. On leur remet dans leur sac l'argent qu'ils avaient amené pour acheter le blé. Et alors, il y en a un qui a ouvert son sac, c'est Lévi, il a ouvert à un moment donné son sac parce qu'il voulait prendre du fourrage pour ses ânes, son âne. Il a dit, incroyable, mon argent est de nouveau dans mon sac. Bon. Ils sont arrivés à la maison, ils ont ouvert leur sac, ils ont vu qu'ils avaient tous leur argent dans le sac. Mais c'est pas possible. Ils ont raconté ça à leur père. On n'est pas comment c'est possible. Bon. Mais ils lui ont dit à Jacob, la prochaine fois, il faudra que tu laisses Binyamin partir avec nous, parce que sinon, on ne pourra pas recevoir de blé, et il va rien nous donner. Alors Jacob a dit non, pas, c'est le seul qui me reste, etc. Bon, le temps a passé, ils ont mangé ce qu'ils avaient ramené d'Égypte, et puis à un moment donné, il n'y avait plus à manger. Alors Yaakov a dit, allez acheter du blé. Alors, ils l'ont dit, c'est pas possible. Si tu laisses pas Binyamin partir avec nous, je ne peux pas. Alors Reuven a dit, moi je me porte garant. Bon, ça a été accepté. Finalement, c'est Yehuda qui a dit qu'il se portait garant pour Binyamin. Et donc finalement, Yaakov a dû céder, parce qu'il n'avait plus à manger. Il leur a dit, prenez un peu des cacahuètes et des machins ce qui poussent dans le pays, quand même, et amenez-lui cadeau et reprenez votre argent, prenez de nouveau une nouvelle dose, une quantité d'argent pour acheter le blé que vous allez acheter. Allez-y, et faites attention. Et ils sont arrivés chez Yosef. Et alors Yosef les a reçus, etc., avec plein de combines pour ils devenaient fous parce que il les asseyait autour d'une table et il les mettait dans l'ordre de leur naissance. Ils comprenaient pas comment il peut savoir ce type, comment qui est quoi, etc. Il a été très chaleureux par rapport à Binyamin. Eux, ils ont eu très peur quand on leur a dit, vous allez manger dans la maison du roi, fin du soir. Ils se sont dit, voilà, on va nous accuser à cause de l'argent que l'on avait retrouvé, comme si. Donc, c'était préparé à ça. Et pas du tout. Tout de suite, ils lui ont dit, écoute, ce qui s'est passé, c'est on s'est aperçu qu'il y avait notre argent, il y a dû avoir une erreur. On est venu pour le ramener, pour le rembourser, bien sûr. Alors il lui a dit, il leur a dit pas du tout, n'ayez crainte, tout va très bien. C'est probablement le dieu de votre père qui vous a donné cet argent. C'est pas moi, il n'y a pas d'erreur. Et donc il a libéré Shimon, là, qui était en prison chez lui. Et ils sont là autour de la table et alors ils lui ont présenté les petits cadeaux qu'il lui a amenés, etc. Il leur a demandé, comment va votre père? Est-ce qu'il est encore vivant? Ils ont dit, oui, il va très bien, etc. Il a embrassé Benjamin et tout. Il avait du mal, Yosef, à se retenir. Il était vraiment très ému, mais bon, il se retient. À un moment donné, il n'en pouvait plus, il sort, se lavait le visage, etc. Et puis, dans le verset 33 du chapitre 43, il les a assis devant lui, à Bechor, comme je vous ai dit, avec exactement selon l'ordre de naissance. Ils se sont étonnés, quoi. Ensuite, il a donné des cadeaux. Évidemment, il a donné plus de cadeaux à Binyamin. Et puis, il a donné des ordres à ses assistants. Il a dit, vous remplissez les sacs de ces gens. Vous mettez autant qu'ils peuvent emporter. Et puis, vous allez mettre dans le sac du plus jeune, vous allez mettre ma coupe. J'ai une coupe avec laquelle je fais de la magie. Donc, vous allez le mettre dans le sac du plus jeune. Sans qu'il le sache, bien sûr. Bon, ils sont partis. Il les a laissés s'éloigner un peu. Il a ensuite envoyé des gens pour les rattraper. Ils nous ont accusés d'être des voleurs. Donc on les a ramenés, eux, avec leur... Ils sont revenus chez Yosef. Ils ont dit, mais on n'est pas des voleurs. L'argent qui était par erreur, même cet argent-là, on l'a ramené, on a ramené encore de l'argent pour acheter, etc. Pourquoi tu nous accuses d'être des voleurs? Comment est-ce qu'on pourrait voler quelque chose, de l'argent ou de l'or? Ils ont dit, celui qui, chez lequel tu trouverais quoi que ce soit, parce que tu cherches, il mourra et nous, on sera tous tes esclaves. Alors il a dit, bon, mais c'est ça. Parce que celui chez lequel on trouvera quelque chose, lui sera mon esclave et vous serez libre. Donc, il accepte pas du tout leur façon de se présenter. Il dit non, je ne garderai que celui chez lequel on va trouver ce que je cherche. Donc, ils ont amené leur sac et il a fait fouiller les sacs. Évidemment, il a commencé par le sac du plus grand, d'accord? Donc voilà, couvrir, 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 couvrir. On arrive au dernier sac, celui de Benjamin. Et voilà, on trouve la coupe. Quand ils ont vu ça, les frères, ils ont compris que, ils savent très bien que Benjamin, c'est pas un voleur. Ils compris que il y a une magouille là. Ils comprenaient pas ce qui se passe, mais ils comprennent qu'il y a une magouille. Ils ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil. Et Yehuda et ses frères sont arrivés dans la maison donc de Yosef. Et ils se sont prosternés devant lui. Yosef leur a dit, mais c'est quoi ce truc-là? Comment vous faites une chose pareille? Vous savez bien que moi je pratique la divination. Alors Yehuda a dit, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne sait pas quoi dire, on ne peut pas se justifier. A Elohim Matsa et Avonavadecha. C'est à Elohim qui a trouvé la faute de tes serviteurs. C'est visiblement ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a fait une faute. Mais nous sommes tes esclaves. Nous, et y compris celui chez lequel tu as trouvé la coupe. Alors il a dit, il a répondu, Khalila, malheur à moi si je faisais une chose pareille. Celui chez lequel on l'a trouvé, lui, il sera mon esclave, mais vous, vous serez libre, vous pouvez remonter chez votre père. Yosef, il se demande, quand eux, ils lui ont fait du mal, ils l'ont vendu, Yosef, il veut savoir, est-ce que c'était en tant que fils de Rachel que les autres qui étaient jaloux du statut de Rachel qui était la femme aimée, c'est à cause de ça qu'ils l'ont vendu. Et donc maintenant, il les a mis à l'épreuve. Est-ce qu'ils vont se bouger pour sauver l'autre fils de Rachel? Maintenant, c'est Binyamin c'est le deuxième fils de Rachel. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour lui ou est-ce que, voilà, il leur dit, vous rentrez chez vous, lui, je le garde en esclave. Est-ce qu'ils vont bouger pour lui? Est-ce qu'ils vont faire pour lui ou est-ce qu'ils vont dire, bon, ben, voilà, c'est, sa mère, c'était déjà une voleuse, elle avait volé les pénates de son père, etc. Rachel, elle avait piqué les pénates de Laban pour l'empêcher de pratiquer la divination, ou bien pour qu'il ne les retrouve pas, etc. Et donc, il les met là. Ça, c'est le test. Il va voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, le scoop, c'est que la semaine prochaine, vous verrez que Yehuda va se manifester. C'est lui le roi parmi les frères. Il va parler au nom des frères et il va dire à Yosef, écoute, moi j'ai garanti que mon frère reviendrait. Je propose un échange. Tu me prends moi comme esclave. Je suis plus grand, plus fort, etc. Tu as tout à gagner à ce que ce soit moi, esclave. Tu laisses partir les frères avec Benjamin. Ils ont un échange très très violent. Le Midrash dit qu'ils se sont. C'est la grande explication Yehuda contre Yosef. Ça va donner le schisme. C'est les deux grands noms parmi les tribus. Donc, Yosef va être convaincu. Bon, ça va. En tout cas. S'il y avait quelque chose contre lui, maintenant, ils se sont investis pour sauver un fils de Rachel. Il n'y a plus de haine, en fait. Mais bien sûr, le problème est encore entier. Là, ils l'ont vendu et tout. Mais le problème, c'est que Joseph, dans le courant de la discussion comme ça, il arrive un moment où il n'en peut plus et il va se dévoiler. Il s'appuie ça, c'est la semaine prochaine. Il va dévoiler qui il est. Il va dire, voilà, je suis Yosef. Vous m'avez vendu. Mais en fait, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui a fait que, visiblement, on comprend qu'il y avait un projet divin là-dedans. Vous avez été ceux par lesquels ça a passé. Vous aviez, vos raisons de faire ce que vous avez fait. Mais en réalité, Hachem vous a utilisé pour m'envoyer en Égypte pour que je puisse être le nourricier de toute la famille. C'est pour ça que lui va faire venir son père et toute la famille pour que, voilà. Et ça, c'est le début de l'esclavage égyptien. C'est le commencement de, on peut dire qu'à ce moment-là, le clan d'Israël est conçu, si on parle comme ça, et là, il va être à l'état embryonnaire, fœtus, etc. Jusqu'à la sortie d'Égypte, à ce moment-là, voilà, c'est la naissance. Il sort comme un enfant qui vient de naître. Et ça, ce sera tout à la fin. Après, il restera encore des années de vie pour Jacob en Égypte, etc. Puis après, on arrivera au Sefer Shemot, c'est-à-dire le séjour en Égypte et la sortie d'Égypte. Donc ça commence ici, la sortie d'Égypte. Commence ici, là. Il va se dévoiler, il va faire venir son père. À partir de la semaine prochaine, on entre dans cette période-là. Voilà, on va s'arrêter là.